vous intéresse vraiment?
Oui.
Pourquoi?
Je voudrais gagner plus d'argent.
À Paris, je peux vous faire gagner plus d'argent qu'en province.
Ah oui? Je veux bien.
L'Amicale du Nid a été fondée en 1946. Cette association propose des ouvertures alternatives aux personnes ayant une conduite prostitutionnelle dans le respect de leur choix. Autrement dit, l'Amicale du Nid accompagne les prostituées hommes et femmes sans jamais les contraindre. En 1999, à Montpellier, c'est l'association La Babotte qui a répondu à une sollicitation de la DAS pour mener des actions de prévention dans le domaine de la prostitution. Au début, il s'agissait d'un lieu d'accueil et puis, au fil du temps, les actions se sont développées. Dans cette première émission, nous allons découvrir l'Amicale du Nid avec sa directrice Marie-Geneviève Zaroukian et un attaché de prévention Philippe Andrès. Nous verrons les missions de l'Amicale du Nid et le volet prévention en direction de la jeunesse. Dans la deuxième partie, nous parlerons plus précisément de la prostitution de personnes issues de l'immigration.
La prostitution, bon, comme tous les phénomènes qui sont toujours semi-clandestins, pour fonctionner, elle doit rester opaque. Donc oui, il y a une prostitution visible, qui est celle avec laquelle on est le plus aisément en relation, qui est un petit peu quantifiable, disons que sur chaque ville, les services de police disent, bon ben voilà, il y a tant de personnes qui ont été identifiées comme en situation de prostitution, etc. Ce qui est assez significatif et de plus en plus important, c'est que la prostitution visible se réduit, d'autant plus qu'entre-temps est intervenue la loi de sécurité intérieure, qui a représenté, qui peut représenter une menace, enfin en tout cas, hein, pour les personnes qui est vécue comme ça par les personnes en situation de prostitution, qui font que la prostitution visible veille à se rendre de moins en moins visible et que donc tous les chiffres sont sujets à caution, puisque les chiffres qu'on peut donner à peu près tranquillement, c'est les chiffres des personnes qui sont recensées sur la route ou dans la rue à un instant T, en sachant qu'il y a énormément de déplacements, que quelquefois les mêmes personnes peuvent être recensées. Je sais pas, je donne des exemples, par exemple la nuit sur Nîmes et le jour sur les routes, etc. Donc, pour ma part, je donne pas trop de chiffres. Les seuls chiffres que je peux donner avec toute tranquillité, c'est le nombre de personnes qui est en contact avec nous. Voilà, ça je peux le dire, en sachant que dans ces nombres-là, nous avons des personnes encore en situation de prostitution, nous avons des personnes qui s'identifient comme en danger de prostitution ou qui le sont par les partenaires comme en danger de prostitution, et nous avons des personnes qui ont quitté la prostitution et qui sont dans des démarches d'insertion. Donc on le voit, d'abord c'est pas du tout significatif du nombre de personnes prostituées sur le département, ça veut juste dire que celles-là sont arrivées jusqu'à nous, parce qu'à un moment donné, ça devenait possible pour elles, quoi. Et bon, ça, je veux dire que le nombre de personnes en contact avec le service, sur une année, il tourne à peu près sur l'ensemble des actions que nous conduisons, c'est-à-dire à la fois le travail de rue et le travail d'accueil ici, il tourne autour de 300. Mais on ne peut pas en déduire que la prostitution, c'est 300 personnes. C'est certainement à la fois beaucoup plus et peut-être beaucoup moins si je considère strictement la prostitution de rue. Parmi celles que nous rencontrons à l'extérieur, il y a plus ou moins, suivant les années, 40% qui arrivent jusqu'au service. Les autres, on ne les voit que dans le travail de rue ou sur le travail de route.
Mais qu'est-ce que je dois faire exactement?
La prostituée fait commerce de ses charmes, elle s'efforce de gagner le plus d'argent possible, d'avoir une clientèle dont elle tirera profit et de réaliser les meilleures conditions d'exploitation.
Est-ce que c'est important d'être belle?
La beauté n'est pas indispensable pour une prostituée. Elle a néanmoins un rôle important dans sa carrière. C'est son physique qui classera une fille dans la hiérarchie de la prostitution et surtout qui attirera sur elle l'attention des proxénètes. L'attrait physique de la femme étant susceptible d'être pour eux la source d'immenses profits.
Est-ce qu'il faut s'inscrire quelque part?
C'était le cas avant la loi du 13 avril 1946. Les prostituées étaient soumises à une surveillance policière et médicale. Désormais, la prostituée n'est plus contrainte qu'à une seule obligation, celle de se soumettre à un contrôle médical. La loi du 24 avril 1946 et le décret numéro 2253 du 5 novembre 1947 instituèrent et organisèrent le fichier national sanitaire où doivent être enregistrées toutes les femmes à l'encontre desquelles il existe des présomptions graves, précises et concordantes.
Bonjour, Philippe André.
m'adresse, Michael Denis Montpellier, attaché de prévention. Alors la prévention, ça se divise en plusieurs secteurs, prévention primaire, secondaire et tertiaire. La prévention primaire, c'est en amont des conduites à risque chez les personnes que l'on rencontre. Ce qu'on entend par conduite à risque lié à la sexualité, puisque on est ici à l'Amicale du Nid, mais aussi aux violences. Ça rejoint plusieurs choses, c'est-à-dire que concrètement, on intervient dans des établissements, des collèges, ça peut être des lycées aussi. Là, on est en train de réfléchir aussi à une intervention avec des universités. Ça peut être aussi des jeunes qu'on rencontre par le biais de la PJJ, par exemple. Notre intervention avec eux, c'est plus au niveau de prévenir les risques, voir avec eux, repérer en fait les risques qui peuvent être, qui sont inhérents justement à la jeunesse en fait, puisque on est dans une société qui est en train de valoriser certains, je sais pas si on peut dire valoriser, mais bon, on a des conduites qui sont moins perçues comme à risque, mais qui pourtant le sont. Voilà, donc nous en fait, on travaille plutôt sur les représentations. On ne donne pas de conseils, on ne dit pas ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais on travaille sur les représentations de chacun. Ça peut aller de justement des discriminations sexuelles, discriminations raciales aussi, c'est vrai. Ça va aussi sur le rapport de genre en fait, homme-femme, garçon-fille, masculin-féminin, parce que parfois ce rapport de genre il peut exister entre deux personnes du même sexe. Ce rapport de domination, en fait. Voilà, on essaie de travailler sur un éventail assez large, en principe, avec des jeunes. C'est-à-dire qu'on se situe dans le... là où on intervient le plus souvent, c'est dans la tranche 14-30 ans. En fait, au niveau de la prévention, la plupart du temps, nous sommes sollicités... où nous allons, nous, dans les territoires que nous avons repérés comme porteurs de la problématique que l'on travaille. Donc ça peut être dans les collèges, ça peut être dans des lycées, pour des situations repérées, en fait, par les chefs d'établissement. Alors il peut y avoir des situations de prostitution ou de pré-prostitution occasionnelle. Donc les publics, ce sont des publics complètement variés. Sociologiquement, on ne peut pas distinguer de classe précise, en fait. Voilà, il peut... Toute catégorie sociale, toute... alors après, on ne fait pas de distinction d'appartenance religieuse, ethnique, mais vraiment, ça, c'est assez large au niveau de la prévention primaire, je parle. Il semble peut-être que les filles sont plus concernées au niveau, en jeune âge, au niveau des pratiques prostitutionnelles, mais dès qu'on commence à s'approcher du lycée et de l'université... il y a encore moins de distinction, même si on peut, pour l'instant, on est dans une phase encore où on ne peut pas avancer de chiffres précis. C'est quelque chose qui est très difficile à quantifier. L'observation dans ces pratiques à risque est assez compliquée puisque c'est quelque chose qui est caché, qui se fait soit par internet, soit par téléphone, soit par petite annonce. Je parle des conduites à risque liées à la prostitution ou aux pratiques pré-prostitutionnelles. Et donc, dans ces conditions, comment avancer des chiffres précis, comment parler de quelque chose sans être dans l'approximation, c'est pas possible.
Si j'ai bien compris, la prévention tertiaire, là, vous avez affaire directement aux personnes qui se prostituent, hein, c'est ça ? Mm-hmm. Vous pouvez expliquer comment ça se passe et quelle est la principale difficulté lors de cette tâche ?
Concrètement, à l'Amicale du Nid, il y a une tournée par semaine qui se fait avec le véhicule du service sur les routes du département ou en centre-ville. L'équipe composée de travailleurs sociaux va au-devant des personnes en situation de prostitution qui sont donc en bord de route. Là, concrètement, limitation des risques sanitaires, donc c'est du matériel de prévention, préservatif, gel qui est proposé, avec aussi des documents d'information, des numéros de téléphone utiles, des orientations vers des partenaires, des conseils, mais aussi une présence du café, une boisson chaude l'hiver et une boisson fraîche l'été. Voilà, une présence, prendre le temps de discuter avec les personnes, de montrer qu'on est là, en fait. Il y a tout un dialogue, quelque chose d'assez chaleureux qui se passe. Les difficultés, bon, puisque l'intérêt, c'est quand même d'essayer de montrer à ces personnes, quand elles le souhaitent, quand elles le sollicitent, qu'il peut y avoir quelque chose qui est fait. Alors, rien n'est imposé, évidemment. Parfois, c'est proposé. Parfois, on attend que les personnes elles-mêmes... le demande. Bon, ça, il faudrait peut-être plus voir avec l'équipe comment ça se passe au niveau des tournées. Et puis voilà, un petit peu en gros comment se passe la prévention tertiaire. Pour ma part, j'ai participé à des tournées aussi. Effectivement, il y a des moments où on voit certaines difficultés. On voit, par exemple, on a un public qui ne parle pas français. Des personnes issues d'Afrique, et donc là on est dans un anglais approximatif, l'approche est compliquée dans ces moments-là, donc on peut pas venir une fois et essayer de soit de résoudre un problème, soit de se dire bon, on est présent, on est là. C'est quelque chose qui se fait à la longue, en fait, voilà, qui petit à petit qui se construit avec les personnes, en fait, et c'est partout pareil.
Comment est-ce que je dois faire?
Quel que soit le quartier où la femme opère, les procédés de racolage sont les mêmes. La femme, par sa toilette, son allure, son maquillage, manifeste clairement les motifs de sa présence sur le trottoir. Parfois, malgré l'interdiction de la loi, elle approche le client, lui fait des signes, ou même l'interpelle et lui fait des offres.
À quel tarif je serai?
Les tarifs présentent un éventail très large, allant de 300 francs jusqu'à 10 et 15 000 francs pour une rencontre qui peut durer de quelques minutes à une heure selon le cas, et que l'on désigne sous le nom de passe, et de 5 000 à 50 000 francs pour une nuit, ce que l'on appelle un coucher.
Est-ce que j'ai le droit d'aller n'importe où?
Des essais de réglementation ont été tentés dans ce sens, à Paris notamment, où un arrêt du préfet de police du 25 août 1958 a interdit de stationner d'une manière prolongée ou d'effectuer des allées et venues répétées en vue de se livrer à la prostitution pendant certaines heures, au Bois de Boulogne, dans les avenues avoisinantes.
Et les gens qui sont dans les quartiers où, comme se disait ce monsieur, on pratique des fellations dans le hall de son immeuble, est-ce qu'il n'attend pas de nous, alors qu'il y a eu l'alternance, que nous fassions quelque chose?
La première question pour le service, c'était d'être identifié par les personnes concernées comme susceptible d'être en relation avec eux autour des questions qui les concernaient, qui concernaient la prostitution. Et donc, le premier travail que nous avons fait et que nous continuons régulièrement, c'est du travail de rue et du travail de route. Alors, il a l'inconvénient, comme je le disais tout à l'heure, hein, de nous permettre de n'accéder qu'aux personnes qui sont sur des pratiques prostitutionnelles traditionnelles. Et c'est vrai que ce travail de rue et de route laisse sur le bord du chemin, si je puis dire, tous les publics qui aujourd'hui se prostituent essentiellement soit à partir de petites annonces, soit à partir d'Internet, soit encore dans les salons de massage, les espaces privés. Donc ça, c'est un aspect sur lequel le service réfléchit depuis longtemps, mais c'est très très difficile de trouver des moyens pertinents et pas énormément chronophages qui nous permettent d'aller à la rencontre de ces publics-là. Après, va s'engager un travail leur permettre de venir ici, donc organiser le temps et l'espace pour qu'elles repèrent les moments où elles peuvent être reçues assez rapidement, sans aucune condition, c'est-à-dire il n'y a pas de préalable. Il suffit qu'elles sollicitent de rencontrer... soit de rencontrer un travailleur social, soit qu'elles viennent sur les temps de permanence, qui sont donc deux fois par semaine, pour le moment, les mardis et les jeudis après-midi. À ce moment-là, elles vont pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc on s'efforce que cette rencontre se fasse le plus à bas seuil possible, c'est-à-dire qu'il est possible de venir ici, même si on souhaite garder l'anonymat. Il est possible de venir ici avec des demandes vraiment très minimalistes. Il est possible de venir ici lors des tables ouvertes, puisque régulièrement nous invitons toutes les personnes que nous rencontrons dans la rue à venir partager un repas ici. Alors les rythmes sont variables suivant l'intensité du travail, mais ça varie, disons, pendant un certain temps c'était une fois par mois, après on ne pouvait plus parce que la file active était trop importante. Donc là on est sur tous les deux mois et demi à peu près, hein, il y a une table ouverte. Donc ça peut être l'occasion de venir ici sans forcément porter une demande, parce que c'est difficile. Enfin, toutes les personnes qu'on reçoit témoignent de la difficulté de franchir la porte. Même si on essaie de faire qu'elle ne soit pas trop, trop lourde, c'est pas aisé, quoi, hein, pour elles.
Vous avez énoncé différentes manières de se prostituer. Donc il y a sur la route, il y a par le biais d'Internet, dans les salons de massage. Évidemment, la prostitution, c'est un phénomène qu'on ne connaît pas forcément, mais on a l'impression que parfois cette prostitution est complètement assumée par les personnes. Alors ces personnes que vous rencontrez, est-ce que vous rencontrez voilà, des personnes qui l'assument complètement et qui n'ont pas donc de problème et qui sont peut-être contentes de discuter avec vous mais n'ont rien à demander?
Alors on en rencontre un peu, je dirais, mais peu, parce que ça dépend aussi du moment de la rencontre et du cadre dans lequel elle va se faire. Je pense que pour presque toutes les personnes, dans un premier temps, moi je dis volontiers, on n'aurait aucun problème si la prostitution était d'emblée un problème. La prostitution, c'est d'abord une solution, ou du moins, même si c'est un leurre de solution, si les gens s'inscrivent de manière durable dans la pratique prostitutionnelle, c'est parce qu'au départ, ils envisagent d'y trouver une solution. Et donc, pendant un certain temps, je veux dire, c'est un système de balance. À un moment donné, les bénéfices dépassent les inconvénients. Et tant qu'on est à ce niveau-là, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de demande vers un service spécialisé. C'est vraiment à nuancer parce que pour la même personne, à quelques mois d'intervalle, et on le voit bien, nous suivons ici des personnes qui pendant longtemps nous ont dit « Pour moi, la prostitution, c'est franchement pas un problème. » voilà. Et qui, 2 ans après, viennent ici en disant « Mais j'en peux plus, quoi. » Il y a à respecter les temps des gens. C'est-à-dire que régulièrement, on nous dit « Mais combien vous en avez sorti ?» Je dis « Mais moi, nous, on n'en sort personne. On sort personne. » Il y a un moment où les gens, où les hommes, ou les femmes, souffrent de ce qu'ils vivent. Parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas un espace où ils se tissent des relations qui leur font du bien. Et voire même le plus souvent que c'est un espace où ce qu'ils vivent est difficile et pénible. Voilà. Et donc, au fur et à mesure qu'ils récupèrent de l'envie de vivre, leur possibilité à assumer la prostitution, généralement, se réduit. Je crois qu'il faut vraiment faire une nuance importante entre les personnes victimes de la traite des êtres humains, donc qui, du fait de la misère dans leur pays d'origine, ont pu être plus ou moins contrainte, parce que je pense que la misère est une contrainte quelquefois suffisamment forte pour accepter des choses inacceptables. Et puis, il y a aussi certaines personnes qui sont venues sous contrainte. Sous contrainte, c'était des questions de vie ou de mort pour elles ou pour leurs proches. Donc, bon, voilà. Je mets un petit peu à part, je vais dire, ce type de public, hein, puisque il existe sur le département, même si je pense que sur Montpellier, il n'est certainement pas majoritaire. Parce que vous dites, on connaît la prostitution, moi je crois que très peu de gens, et même nous, qu'est-ce que nous en connaissons de la prostitution? Nous en connaissons ce que quelques-uns veulent bien nous en dire. Et pendant très longtemps, ils ont eu envie de n'en dire rien. Donc la prostitution que nous connaissons, c'est pour l'essentiel, en tout cas dans un service spécialisé comme le nôtre, des personnes qui commencent à souffrir de cette situation-là et qui souhaitent changer quelque chose dans leur propre vie. C'est pas toujours quitter la prostitution. C'est quelquefois faire quelque chose pour que ça devienne plus supportable. C'est quelquefois avoir un domicile personnel et pas vivre à l'hôtel. Donc pouvoir aussi tisser un espace d'intimité avec leurs proches, avec leurs enfants, avec leur famille. C'est quelquefois simplement aller mieux physiquement. Donc on va les accompagner vers des dispositifs de santé, vers tout ce qui touche à l'accès aux droits. Je veux dire, on ne vient pas ici que pour quitter la prostitution. On vient aussi ici pour aller mieux. Mais généralement, ce que je veux dire, peut-être que je m'endors un peu, mais le plus souvent, quand on va mieux, quand vraiment, et dans le corps et dans la tête, on a envie de quitter la prostitution. On a envie de tricoter des relations un peu libérées de ce genre de difficultés, quoi. Voilà.
Dans la deuxième partie de cette émission, nous verrons la situation particulière des prostituées issues de l'immigration et comment l'association La Babote, membre de l'Amicale du Nid, répond à ces spécificités. Toutes les informations sur l'Amicale du Nid, c'est amicaleduni.org. Précisons aussi que vous avez pu entendre Anna Karina dans le film de Jean-Luc Godard, Vivre sa vie.